Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, bonjour et bienvenue dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier, université d'excellence. En ce début d'année 2022, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux et à vous assurer que, moi présidente, tout sera mis en marche pour les réaliser. Avec moi, fini les fausses promesses, avec moi, tout devient possible. Vous voulez la santé? Je vous garantis en 2022 l'éradication immédiate et quoi qu'il en coûte, du Covid, du cancer et de l'eczéma. Vous voulez la sécurité? J'exigerai la fermeture des frontières après 1h du matin et l'obligation du passeport non vaccinal français. Vous voulez le bonheur et l'amour? Je ferai rouvrir au plus tôt les boîtes de nuit, les églises, les meetings, sans gel, sans masque. Vous voulez l'argent? Je vous promets la réduction de la fracture sociale grâce à une hausse des salaires de 50% minimum et une baisse du coût du travail d'au moins autant. La suppression de l'impôt sur la fortune et des chômeurs. Vous voulez l'écologie? Je déclarerai la guerre au réchauffement climatique en ordonnant l'immolation par le feu de tous les thermomètres. Vous voulez...
Populiste!
Quoi, comment ça, populiste? Je t'en ficherai, moi, des populistes. Tu sais ce que c'est, toi, au moins, le populisme?
Ah bah non.
Eh bien, ça tombe bien, parce que nos invités, eux, ils le savent très bien. Ils sont chercheurs au laboratoire de sciences politiques du CEPEL et ils ont sorti en novembre dernier un ouvrage intitulé « Au nom du peuple », dans lequel ils reprennent l'ensemble des préjugés sur le populisme pour tenter de mieux expliquer ce concept un peu flou et de plus en plus utilisé comme une catégorie fourre-tout. Avec nous en studio, Alexandre Désé, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Et Emmanuel Rengoat.
Bonjour.
Et bienvenue également avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, la populaire et non populiste Aline Perriot.
Bonjour.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, on commence toujours cette émission par une question très simple et une question de définition. Autant dire qu'avec vous, ça a été un peu compliqué puisque vous commencez votre livre en nous expliquant que faire une définition du populisme, c'est un peu compliqué. Alors, on va commencer par ça. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué de définir le populisme? Qui veut répondre? Alexandre Désé?
Parce que le populisme, en fait, est une notion qui a été utilisée pour définir tellement de choses qu'il est difficile de trouver un point commun entre ces différentes choses. Alors, c'est un terme qu'on a pu utiliser pour qualifier des mouvements politiques, des régimes politiques, des partis politiques, des hommes politiques, des idéologies politiques, certaines attitudes politiques. C'est un terme qu'on a également utilisé pour désigner des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, pour désigner Pierre Bourdieu, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, le chanteur Renaud. Donc la grande question, c'est de savoir comment on peut définir des choses aussi diverses et hétérogènes. Donc effectivement, la première question qu'on s'est posée dans ce livre, c'est est-ce qu'une définition du populisme est possible? Et notre réponse est oui, à condition en fait de s'accorder sur le minimal commun, le noyau qu'on va retrouver entre ces différentes manifestations du populisme. Et donc nous, on a considéré que ce qui constitue un invariant du populisme, c'est en fait un style politique, généralement qui fait effectivement appel au peuple contre l'élite, qui peut être mobilisé par différents types d'acteurs, différents types de mouvements, quelle que soit en fait leur orientation idéologique. C'est une définition qui existait déjà dans la littérature. Le problème, c'est qu'il y a une lutte très importante entre les chercheurs pour l'imposition d'une définition légitime du terme. Donc en fait, le seul point sur lequel s'accordent les chercheurs, c'est précisément la difficulté de définir et de s'entendre sur une définition.
Alors justement, vous parlez de littérature, et il y a déjà 37 000 références dans la littérature mondiale sur le populisme. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité en rajouter une, et pourquoi maintenant, Emmanuel Rengoat?
Alors maintenant, parce que c'est aussi, alors ça fait longtemps, ça fait plusieurs décennies, mais ces dernières années, c'est un terme qui a continué à être très utilisé, à la fois dans le domaine scientifique, comme le disait Alexandre, mais aussi dans la lutte politique. Et ça fait partie du rôle des chercheurs à notre sens, que de pouvoir essayer d'apporter nos outils, nos analyses et le savoir qu'on peut construire pour essayer d'éclairer un peu la manière de construire les opinions et donner à voir la manière dont se construit cette lutte politique. Et le terme de populisme, on va y revenir, je pense, ensemble, mais c'est un outil qui permet de servir des stratégies, des acteurs dominants dans le champ politique, qui permet d'invisibiliser des idéologies ou des discours qu'on entend moins, qui permet d'imposer des conceptions du peuple. Donc il y a plein de charges de sens implicites qui sont cachées derrière ce terme-là. Et c'est pour ça que ça valait le coup de faire un bouquin, pour essayer de décortiquer tout ça. Et c'est ça qu'on a proposé. Donc effectivement, on assume le paradoxe de faire un bouquin qui explique pourquoi finalement le terme populisme n'est peut-être pas le plus heuristique, peut-être pas celui qui aide le mieux à comprendre le monde pour éclairer le débat politique.
Et au niveau timing, justement, la sortie du livre cette année, l'année des élections présidentielles, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était un hasard ?
Non, en fait, la sortie est intervenue en novembre parce que ça fait juste 3 ans qu'on a du retard sur ce bouquin. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, enfin, on a décidé finalement de l'écrire à 3 mains. Ça nous permettait d'avancer un peu plus rapidement. Donc non, c'était un hasard de calendrier.
Et petite question, on n'en a pas parlé. Du coup, la troisième main avec qui vous avez écrit ce livre, c'est...
Alors, c'est Umberto Cuccetti, qui est chercheur au CONICET en Argentine, mais qui est aussi très intégré dans le réseau de la science politique française, et qui nous a permis aussi d'avoir une vision plus internationale du phénomène et de ses racines historiques argentines et latino-américaines.
Alors, ce populisme, vous en donnez quand même les grandes caractéristiques. Ça va nous aider à avancer dans l'émission. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, ces grandes oppositions, ou en tout cas ces grands thèmes qu'on retrouve dans beaucoup de formes de populisme ? Qui veut répondre ?
Voilà, peut-être que la première caractéristique majeure, c'est effectivement cet usage politique, généralement, mais oui, plus généralement, politique du peuple. Dans un certain nombre de discours. Un usage politique qui consiste à construire une figure idéalisée du peuple, créditée de valeurs particulières, comme par exemple le bon sens. Le peuple serait détenteur d'une certaine forme de vérité, alors qui n'est pas forcément conceptualisée et qui est dite. Mais,
en opposition aux élites, c'est ça ?
Alors, en opposition, effectivement, aux élites, le populisme renvoie forcément à une vision conflictuelle du monde, un eux, nous, et généralement, la médiation entre ces deux éléments est faite par un leader qui entend justement incarner ce peuple contre les élites.
La figure du leader charismatique, justement.
Alors, la figure du leader charismatique, mais pour revenir sur les problèmes de définition, c'est que les auteurs ne sont pas d'accord sur, justement, cet élément en particulier pour définir le populisme. Et effectivement, Emmanuel pourrait en parler mieux que moi, parce que c'est une des meilleures spécialistes actuelles du mouvement des Gilets jaunes, mais très concrètement, c'est un mouvement qui a été caractérisé de populiste, mais qui est un mouvement sans leader. Donc c'est pour ça que c'est compliqué.
On y viendra dans le déroulé des questions, on en parlera. Oui.
Pour ça que c'est compliqué de déterminer les caractéristiques du populisme au-delà de ce style politique, cet usage politique de la notion du peuple, parce que à chaque fois qu'on l'applique à un phénomène, on va trouver des éléments qui ne sont pas forcément communs aux autres phénomènes, mais toujours, Pierre-André Taguieff utilise, je n'aime pas trop ce philosophe, mais il utilise un terme qui est intéressant, il dit que c'est une notion antithétique, c'est-à-dire elle désigne des choses qui se ressemblent mais qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Quoi. Et effectivement, ça dit également la difficulté d'appliquer ce terme.
Et si je peux ajouter un mot, Alexandre a repris une métaphore d'Isaiah Berlin qui est assez efficace, qui est celle de la chaussure de Cendrillon, c'est-à-dire qu'il compare le concept à la chaussure de Cendrillon, et en disant qu'on essaye d'enfoncer cette chaussure à n'importe quel pied, ce qui contribue à finalement rendre le chausson ou la chaussure, la pantoufle de verre du populiste complètement informe. Et c'est vraiment l'idée, on tire tellement le concept vers des réalités partisanes, vers des pays, vers des moments historiques différents, qu'on se demande si ça a encore un sens, finalement, si ça permet encore d'éclairer pour comprendre.
Alors justement, on parle souvent de la montée du populisme en France, en Europe, et vous faites remarquer que finalement, ça fait 30 ans qu'on en parle, comme d'un phénomène nouveau. Mais en réalité, le populisme, ça date de quand ?
Alors le populisme, c'est une de ces grandes caractéristiques que d'être sans arrêt, et par les auteurs scientifiques et par les acteurs politiques, présenté comme une chose nouvelle, comme une chose singulière, et aussi comme un danger. Ce qui est une manière aussi de... centrer l'attention politique là-dessus et pas sur d'autres enjeux, sur d'autres débats de société. C'est un terme qui a quasiment plus d'un siècle. et qui s'est développé dans différents contextes historiques, qui s'est développé aux États-Unis, qui s'est développé en Amérique latine et qui s'est développé beaucoup plus tardivement dans les pays occidentaux. Là aussi, avec une récupération complètement décontextualisée, qui pose la question de l'intérêt et de la justesse de son usage. Et c'est un terme qui s'est d'abord développé pour qualifier des mouvements qui mobilisaient les milieux populaires en leur donnant une place et des outils de participation. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était on pourrait utiliser de manière complètement anachronique le terme d'empowerment, c'est-à-dire l'idée, c'était de donner des outils, d'accompagner la participation, mais pas de manière paternaliste, on va dire, des milieux populaires. Donc c'était une valorisation du peuple en ce sens-là. Et puis après, ça s'est étiré pour désigner des formations qui étaient complètement d'un autre côté, de l'autre bord politique, qui avaient des visions du peuple très très différentes. Et donc voilà, ça s'est ensuite diffusé de manière très élastique, on va dire.
Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans votre livre. Et donc, dans ce livre que vous proposez, vous déconstruisez, vous vous attachez en tout cas à déconstruire un certain nombre d'idées préconçues sur le populisme, à commencer par le fait que le populisme égale extrême droite et inversement. Alors, au contraire, vous montrez que finalement, cette étiquette politique, elle a aussi participé à la normalisation de la normalisation des partis d'extrême droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ?
Le Emmanuel le rappelait, dans toutes les vagues d'usage qu'il y a eu, l'une des dernières en date, c'est celle qui a consisté à qualifier un ensemble d'organisations partisanes en Europe qui se situaient à l'extrême droite de l'échiquier politique et des organisations qui sont devenues de plus en plus fortes et importantes d'un point de vue électoral à partir des années 80-90, le Front National français en tête. Quand le FN émerge, en même temps, apparaît un débat très vif entre chercheurs pour savoir comment qualifier ce parti. Donc là aussi s'engage une lutte qu'on appelle taxinomique, c'est-à-dire une lutte pour la catégorisation du Front National. Alors moi, à une époque, je travaillais sur ce sujet-là, j'avais recensé dans la littérature européenne à peu près 60 labels différents pour désigner ces partis. Donc ça dit l'intensité de cette lutte qu'on retrouve d'ailleurs, le populisme, enfin la notion de populisme a été intégrée évidemment à cette lutte conceptuelle. Et donc, la popularité de la notion de populisme se faisant croissante et les partis d'extrême droite s'intégrant de plus en plus dans les systèmes et cherchant notamment à conquérir un électorat plus large, et ils procèdent à des stratégies de dédiabolisation, de féminisation du discours, de modernisation. Et en fait, cette évolution de l'extrême droite a fait qu'un nombre croissant de chercheurs se sont mis à utiliser la notion de populisme, voire de national-populisme, en fait, pour désigner ces formations. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais oublier le fait que quand le Front National ou le Rassemblement National cherche à se dédiaboliser, généralement, ce travail est un travail de surface qui ne change pas grand-chose au fond. Alors là, Marine Le Pen a accentué un petit peu ce processus, mais pendant très longtemps, le Front National, le Rassemblement National est resté strictement le même du point de vue de son organisation, de la sociologie de son électorat, ou de ses orientations programmatiques. Donc en fait, certains chercheurs considèrent effectivement que l'usage de la notion de populisme est venu en fait en quelque sorte conforter une évolution des partis d'extrême droite, mais qui n'était pas forcément avérée dans la réalité et à l'observation de ces partis.
Oui, quand on dit finalement populiste, on ne dit pas réactionnaire ou extrême.
Exactement.
Ou finalement on masque autre chose.
Sans compter qu'en même temps, ceux qui étaient désignés de populistes ont retourné en quelque sorte le stigmate qualifiant et on finit par affirmer que être populiste était une qualité puisque c'était être proche du peuple. Mais eux rentraient également à ce moment-là dans la lutte pour l'imposition d'une définition légitime. Donc populiste, qui était un disqualificatif, une arme pour disqualifier et utiliser dans la lutte politique, est devenu inversé, pour certains acteurs, une qualité. Emmanuel Macron s'est dit également un populiste il y a peu de temps, dans une même visée.
Alors il y a une autre idée qui est souvent admise, c'est que le populisme de gauche, incarné en Europe par la France insoumise, Podemos ou Syriza, serait une nouvelle alternative politique. Et vous montrez aussi dans votre livre que d'abord c'est pas nouveau et que ce serait directement inspiré des figures latino-américaines comme Chavez au Venezuela, Correa en Équateur ou Morales en Bolivie. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces mouvements latino-américains et européens, Emmanuel Rangoat?
Alors ils ont de commun de vouloir renverser la vision dominante de ce que sont les clivages politiques à un moment donné, donc dans les mouvements occidentaux, la droite et la gauche, et de se présenter comme à la fois comme un outsider, mais à la fois comme des rassembleurs. Donc, ce qui est une manière de pouvoir aller chercher des électorats qui ne se reconnaissent pas dans le clivage droite-gauche traditionnel, soit que ce soit des déçus, notamment des partis de gauche sociodémocrates, on va dire, soit que ce soit des jeunes générations, par exemple, qui ne sont pas encore affiliés à ces partis-là. Donc, ils ont en commun cette position, et puis ils ont en commun aussi, on pourrait dire, des affinités idéologiques, et puis des interconnaissances. On a une partie des élites politiques, en tout cas des acteurs politiques des partis, notamment du parti espagnol Podemos, qui s'est formé ou qui connaît très bien une partie des leaders sud-américains, qui connaît très bien l'histoire politique sud-américaine et qui en a tiré les leçons. Ce sont aussi, pour une grande partie des dirigeants de Podemos, des politistes. Donc c'est des gens qui ont travaillé sur ces questions, à la fois sur la question de l'histoire de la pensée politique, de ce qu'est le populisme, et à la fois sur les stratégies politiques de communication ou de les stratégies électoralistes. Donc c'est une stratégie très très pensée, très très réfléchie. Et puis dernier élément, ils ont des références intellectuelles en commun, et il y a tout un ensemble d'acteurs qui circulent entre ces parties-là et entre ces aires culturelles-là pour véhiculer ces idées, ces échanges, ces circulations de stratégies politiques, notamment Chantal Mouffe, par exemple, qui est une théoricienne du populisme de gauche et qui a contribué à la diffusion de ces idées-là et a inspiré assez directement des stratégies politiques.
Alors, vous parlez d'un autre... Vous donnez un autre exemple dans votre ouvrage. Vous parlez d'un populisme hybride, ni de gauche ni de droite, en citant notamment le mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo. Est-ce que ça valide l'idée, justement, que les extrêmes se rejoignent? C'est-à-dire que extrême gauche, extrême droite, est-ce que ça valide cette idée-là?
Non, ça la valide absolument pas. Bien au contraire, nous, notre ouvrage porte justement sur la question des usages de la notion. Et là, justement, on est dans un cas typique de mésusage de cette notion. C'est-à-dire qu'en qualifiant des formations d'extrême droite et d'extrême gauche de populistes, on a l'impression qu'elles, potentiellement, elles se rejoignent par rapport à différentes dimensions, et notamment, y compris certains aspects idéologiques. C'est absolument pas le cas. Il y a des différences fondamentales entre la France insoumise et le Rassemblement national sur tout un ensemble de points, à commencer par l'immigration, la question de l'Europe, etc. Donc là, le problème de l'usage de la notion, c'est un effet homogénéisant qui produit un nivellement, en fait, un effet de... Exactement, ça les homogénéise, ça les fait se ressembler alors qu'elles ne se ressemblent pas.
Je peux ajouter un mot là-dessus.
Allez-y,
ouais. Oui, c'est pour rebondir aussi sur une question que vous avez posée tout à l'heure. Nous, ce qu'on essaie de pointer, c'est qu'un des problèmes de l'usage prépondérant du populisme aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que ça invisibilise tout un ensemble de choses. Et quand on homogénéise les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, on invisibilise leurs différences idéologiques qui sont fondamentales. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on choisit de parler de populisme, on choisit de ne pas parler de questions culturelles. Est-ce qu'on est libéraux? Est-ce qu'on est libéraux sur l'aspect économique, mais libéraux aussi sur la question des valeurs? Qu'est-ce que c'est le rapport au genre, au féminisme? Qu'est-ce que c'est le rapport à l'immigration, etc., etc. Donc c'est une manière d'invisibiliser les différences idéologiques. Et un autre problème que ça produit, pour revenir sur la question de la centralité prise par les partis d'extrême droite ou par le FN dans le qualificatif de populisme, Alexandre l'a très bien expliqué, dans les années 90-2000, le terme populisme devient équivalent à extrême droite FN. Ce qui produit un autre effet, qui est que ça décrédibilise l'usage du terme populisme. Ça devient stigmate, c'est ce qu'Alexandre expliquait tout à l'heure. Un des problèmes, une des conséquences de ça, c'est que cette valeur stigmatisante et négative du populisme a comme déteint sur la notion de peuple elle-même.
C'est ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dévaluer la notion de peuple elle-même?
Oui, on est là-dedans, et quand on assimile l'extrême gauche et l'extrême droite, on fait comme s'ils avaient la même vision du peuple, comme s'ils défendaient les mêmes populations, alors que derrière, il y a des constructions idéologiques qui sont très très différentes, on en parle dans le livre. C'est pas pareil de parler d'un peuple, vous disiez tout à l'heure, française-français, dans votre discours d'ouverture. C'est pas la même chose que de dire travailleur-travailleuse. Mm-hmm. C'est pas la même chose que de dire immigré-immigrante, française-français. Il y a plein de constructions très très différentes qui vont donner lieu à des politiques publiques très très différentes, à des grilles d'interprétation du monde très très différentes, et le populisme tend à invisibiliser tout ça, et c'est bien le problème.
Alors, votre livre prend aussi la question du rôle présupposé que jouent les réseaux sociaux dans la diffusion des idées populistes. Alors, du coup, les réseaux sociaux et plus largement le numérique, est-ce que c'est populiste ?
Non, en fait, c'est la thèse qu'on défend. De toute manière, ce bouquin consiste à dire à peu près tout le contraire de ce qu'on pense en général. Donc, c'est pour ça qu'il était amusant à faire, mais il y a... Il y a l'idée selon laquelle les réseaux sociaux favoriseraient l'intermédiation, c'est-à-dire l'idée de relations directes potentielles entre les différentes personnes qui communiquent entre elles, notamment entre les acteurs politiques et le peuple. Mais si on part la plupart des chercheurs qui défendent cette hypothèse forment ce syllogisme un peu bizarre qu'on déconstruit dans le bouquin, mais ça signifie en fait que sur cette base-là, toute communication devient potentiellement populiste. Donc c'est un vrai problème. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un usage par les réseaux sociaux des populistes, mais ce n'est pas un usage exclusif. Tous les acteurs politiques se sont emparés des médias. Ça ne veut pas dire également que certains médias ne deviennent pas populistes. Enfin, il suffit alors de CNews, la chaîne d'information sur laquelle officiait jusqu'à une période récente Éric Zemmour, a longtemps été qualifié de média populiste. Alors là, encore une fois, sur un principe de confusion entre extrême droite et populisme. Donc il y a des interconnexions compliquées à dénouer entre médias et populisme. Mais encore une fois, c'est justement ce travail de déconstruction qu'on fait pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair et bien replacer le phénomène de populisme par rapport à l'industrie médiatique. Les deux ont des connexions, mais pas celles qu'on croit, en quelque sorte, quoi.
Alors, vous l'avez abordé un tout petit peu tout à l'heure. Je vous propose maintenant qu'on s'y arrête plus particulièrement parce qu'on sait que vous êtes une spécialiste, Emmanuelle Rengoat, du mouvement des Gilets jaunes. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à le décrypter un peu, ce mouvement ? Qu'est-ce qui a fait justement qu'on l'a qualifié de populiste et qu'est-ce qui fait que finalement, il s'en distingue ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui ont sans doute fait qu'on l'a qualifié de populisme. Le premier, pour être tout de suite un peu direct, c'est que c'est un mouvement qui a été largement porté par les milieux populaires, bien que pas seulement, il y avait aussi des classes moyennes, et c'était assez mixte socialement, plus que ce qu'on croit. Mais de ce fait, c'est un mouvement qui a généré beaucoup d'incompréhension, parce que c'est des populations qui se mobilisent peu, donc on voit peu dans la rue, etc., qu'on connaît peu, en tout cas quand je dis « on », c'est les commentateurs politiques en général, c'est-à-dire les commentateurs du monde politique et social, c'est-à-dire à la fois les chercheurs, les hommes politiques, les journalistes. Et donc, pour être un peu clair, il y a eu du mépris de classe assez rapidement dans les premiers commentaires autour de ce mouvement-là. Et là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un usage du populisme qui équivaut à une stigmatisation du peuple, tout simplement, qui est issue de cette association du populisme avec l'extrême droite, où on considère que le peuple est insuffisamment compétent politiquement pour se faire ses propres idées et va suivre des leaders charismatiques extrêmes. Donc la première idée, c'est des milieux populaires, et il y a eu un peu de mépris de classe. La deuxième idée, c'est aussi que on a considéré, alors ça me permet aussi d'enfoncer un peu une autre idée reçue, donc j'en profite. Hein. Un des usages principaux du populisme aussi, c'est de mettre en équivalence la démagogie et le populisme. Et ça fait aussi écho à votre discours de tout à l'heure, où il y a beaucoup de promesses assez alléchantes, notamment de mettre fin à la tristesse. c'est une belle idée politique, hein, mais... Et globalement, je pense qu'il y a eu ça aussi dans le qualificatif qu'on a pu attribuer au Gilets jaunes. Après, plus centralement et par rapport à nos questions définitionnelles, c'est un mouvement qui s'est revendiqué très vite comme le peuple et qui a d'ailleurs développé, enfin les gens qui ont participé, ils se sont sentis appartenir au peuple et pour eux, c'était parfois une transformation de vie parce qu'ils devenaient des sujets politiques et ils ont critiqué les élites politiques. Donc là, on retrouve deux des caractéristiques principales qui font la définition la plus commune du populisme. En revanche, là où ça me paraît complètement erroné, mais plus qu'erroné, ça paraît jeter plus d'obscurité pardon, que de lumière de parler de populisme, c'est qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, le populisme, ça s'articule au fait qu'on a un peuple qui va se reconnaître dans un homme ou une femme providentielle, souvent un homme, dans un leader charismatique. Et donc là, ça invisibilise une partie très importante du mouvement des Gilets jaunes, qui est, au-delà du mouvement des Gilets jaunes, une caractéristique des mouvements sociaux de ces dernières années. C'est le fait qu'on ne se reconnaît pas dans un leader, non, mais en plus, il y a une critique très très forte du principe représentatif, c'est-à-dire que pas de porte-parole, pas de leadership, c'est un mouvement qui s'est voulu très très horizontal, et c'est une caractéristique qu'on retrouve au-delà du mouvement des Gilets jaunes, dans Nuit debout, chez les indignés, donc là on a un élément de mutation des luttes sociales aujourd'hui, qui à mon avis mettent complètement à l'écart la notion de populisme pour les qualifier, et du coup la rend à la fois obsolète et inopérante, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de voir qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qui sont notamment ce rapport au principe représentatif et plus globalement à la question de se structurer ou pas quand on fait de la contestation.
Alors, il y a une autre idée aussi que vous livrez dans votre livre, c'est que la manière dont on emploie à tort et à travers le populisme, ça serait un reflet de la manière dont on appréhende la vie politique aujourd'hui. avec une certaine paresse intellectuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alexandre Désé?
Bah, c'est très prétentieux en fait de dire ça, je me rends compte à l'écrire. Mais oui, on peut. L'une des raisons possibles de ce surinvestissement de cette notion, c'est le fait qu'on n'essaye pas de voir le monde tel qu'il est, mais on plaque une réalité conceptuelle dont on croit qu'elle est explicative de ce monde. Et comme le populisme est devenu un mot passe-partout, comme vous disiez, il est utilisé pour dire tout et n'importe quoi, pour qualifier tout et n'importe quoi. Alors après, on sait que plus, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, plus on étire un concept, plus on tire sur son élasticité, plus il englobe un nombre important de phénomènes, et plus son heuristique, c'est-à-dire sa capacité à engendrer des connaissances, s'affaiblit. Donc c'est un vrai problème. La grande question, c'est de savoir pourquoi, par exemple, la notion de populisme est venue se substituer à celle d'extrême droite pour qualifier des partis comme le Front National. Pourquoi le populisme désigne maintenant tout un ensemble de mouvements hostiles à l'Europe, alors qu'il y a déjà un concept qui existe, qui est l'euroscepticisme, sur lequel travaille également Emmanuel. Pourquoi? Pour qualifier des régimes des pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne, on utilise encore la notion populisme alors qu'il y a une autre notion qui existe, celle d'illibéralisme. Donc pour là encore une fois, ça implique de prendre conscience à quel point les luttes, enfin ce que je disais tout à l'heure, comme les luttes pour l'imposition d'une représentation légitime du monde, enfin, sont extrêmement importantes à prendre en considération quand on s'attache à comprendre ce que c'est que le populisme. C'est pour ça que notre conclusion est la suivante, c'est qu'on pense en fait que le populisme existe beaucoup plus à travers ses usages que dans la réalité. Et que pour comprendre ce que c'est, il faut d'abord penser justement à ses utilisations.
Alors, on avait encore plein de questions à vous poser, mais le temps file et vous avez tellement bien répondu à cette dernière question qu'on va s'arrêter là. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, votre livre, on l'a lu et on l'a beaucoup apprécié. Peut-être que vous pouvez nous rappeler, j'ai pas cité la maison d'édition et je ne l'ai pas. Il est publié chez...
C'est le Cavalier Bleu.
Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, on l'espère.
Merci beaucoup. À vous.
Et nous accueillons maintenant une toute nouvelle venue dans l'émission, puisque Agnès Pesanti, responsable de la culture scientifique à l'Université de Montpellier, vient nous présenter le prochain Bar des Sciences qui aura donc lieu jeudi prochain à 20h30 au Dôme. Et cette fois-ci, c'est sur le thème « Qu'est-ce que la virilité ?» N'est-ce pas Agnès ?
C'est tout à fait ça, bonjour.
Alors bonjour, est-ce que vous pouvez donc nous développer un peu ce thème que vous avez choisi pour le deuxième Bar des Sciences de la saison ?
Déjà, oui, bien sûr. Déjà, on va parler de la masculinité. Qui est un ensemble d'attributs, de caractères spécifiques, ou en tout cas considérés comme tels, associés aux garçons et aux hommes. Mais toutes les masculinités ne sont pas viriles.
Alors la virilité, qu'est-ce que c'est ?
La virilité, alors, c'est une très longue histoire de codes culturels qui se modulent selon les époques, les cultures et les contextes sociaux. Alors, on considère dans plusieurs études que la fabrique des hommes, entre guillemets, se fait principalement entre des hommes plus jeunes et plus anciens, plutôt dans des espaces unisexes, pour mieux définir en creux ce qu'est un vrai homme. Dans les milieux populaires et ouvriers, par exemple, un homme viril va être dessiné par les hommes eux-mêmes comme fort physiquement, un peu grande gueule, costaud, protecteur. Tandis que dans les milieux dits plutôt bourgeois et de cadre, eh ben ça va être la volonté, l'obstination et la force de caractère qui sont plus facilement mises en avant. Mais ces modèles ont évolué, évidemment. Ils ont évolué au fil des siècles. Et... ne sont-ils pas remis en cause aujourd'hui au même titre que la féminité ? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, à l'heure où les frontières entre masculin et féminin se brouillent, eh bien, le sens de la virilité, il est largement interrogé. Comment la penser ? Comment la vivre aujourd'hui en envisageant une articulation du naturel et du culturel ? C'est vraiment ce sujet, Sciences et Société, qui est proposé au débat du prochain Bar des Sciences autour de 3 intervenants.
C'est ce que j'allais vous dire. Donc, comme d'habitude, vous avez mijoté une petite table ronde, j'imagine. Donc,
voilà.
Qui viendra nous parler cette fois-ci ?
Alors, on a le plaisir d'accueillir Françoise Paris, qui est professeure des universités. Elle est praticienne hospitalière au CHU, de Montpellier bien sûr, au département d'endocrinologie pédiatrique et département de biologie moléculaire des variations du développement génital. C'est un peu long, mais vous voyez que quand même, c'est une spécialiste du sujet. Elle est également directrice de l'unité de recherche INSERM, DEF, développement embryonnaire, fertilité et environnement.
Et face à elle, on trouvera donc
Marion Polge, maître de conférence à Montpellier Management, qui fait partie de l'Université de Montpellier. Et elle est également directrice de CoCrea. C'est une chaire d'études et de recherche sur les thématiques de l'humain en entreprise. Elle a des choses à nous dire sur la virilité dans le monde de l'entreprise. Et puis enfin, Maxime Potard, autre regard. C'est un artiste, c'est un homme, et c'est un artiste auteur dont le travail interroge le concept de la virilité.
Merci beaucoup Agnès. Et donc on rappelle, c'est ce jeudi 10 février à 20h30 au Dôme.
C'est tout à fait ça. À bientôt.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.